bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 10 mai. Moon Jae-in souligne l'importance de surmonter la crise économique due au Covid-19. Présidentielle 2022, le député Min-ju Park Yong-jin ouvre le bal des candidatures. Économie, le KDI évoque une reprise pour la première fois depuis l'apparition du Covid-19. Enfin, Naver et l'Université nationale de Séoul développent ensemble un modèle de traitement de la langue coréenne. Direction tout de suite la Changwa-dae. Dans son discours tenu aujourd'hui à l'occasion du 4e anniversaire de son arrivée au pouvoir, le président de la République a souligné l'importance de la lutte contre le Covid-19, de la reprise économique et de la relance du processus de paix dans la péninsule. Le locataire de la Maison Bleue a consacré plus de la moitié de son discours à mettre en avant la nécessité de surmonter la crise économique dans un contexte où le retour à la vie normale n'est pas encore d'actualité. Il a également évoqué les efforts déployés pour mener à bien la campagne de vaccination et recevoir davantage de doses de vaccins contre le coronavirus. Le chef de l'État s'est ensuite engagé à promouvoir activement les investissements dans le secteur privé, tout en allégeant les difficultés des petits commerçants frappés de plein fouet par la pandémie. Moon a également réaffirmé sa détermination à empêcher la spéculation et instaurer un ordre équitable sur le marché immobilier. Au sujet de la politique vis-à-vis de la Corée du Nord, le président s'est dit prête à déployer tous ses efforts afin de faire avancer le processus de paix dans la péninsule, évoquant le sommet entre Séoul et Washington qui se tiendra le 21 mai dans la capitale américaine. Place à la politique. Le patron du service national du renseignement sud-coréen Park Ji-won rencontrera cette semaine à Tokyo ses homologues japonais et américaines Hiroaki Tazikzawa et Avril Haines. Il s'agit de leur première entrevue et du premier déplacement à l'étranger de la directrice du renseignement national des États-Unis depuis son entrée en fonction. Les chefs du renseignement des trois alliés échangeront notamment sur la Corée du Nord qui pourrait, selon l'officiel américain, avoir recours à des provocations militaires afin d'obtenir une position avantageuse sur l'échiquier diplomatique. De plus, cette réunion s'inscrit dans la politique de l'administration Biden qui privilégie la coopération tripartite avec Séoul et Tokyo. En effet, le mois dernier, les conseillers à la sécurité nationale de ces trois pays se sont rencontrés et leurs ministères des Affaires étrangères se sont entretenus la semaine dernière à Londres. Heinz est d'ailleurs très probablement attendue à Séoul juste après la réunion de Tokyo. Elle rencontrera le conseiller présidentiel à la sécurité So-hoon afin de coordonner les politiques nord-coréennes des deux nations en amont du premier sommet entre leurs dirigeants le 21 mai à Washington. C'est aujourd'hui qu'expire le délai de soumission du rapport d'audition parlementaire des trois ministres désignés par le président de la République. Cependant, le parti au pouvoir comme l'opposition continue de camper sur leur position. Pour rappel, il s'agit de Im Hye-suk, nommé ministre des Sciences et des TIC, Park Jun-young, choisi pour diriger le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, et No Hyung-wook, retenu pour le fauteuil de ministre de l'Aménagement du territoire et des transports. L'équation semble être plus complexe du côté du Min-ju. Les avis divergent en effet au sein du parti présidentiel sur la nomination des ministres. Certains mettent en avant la nécessité de prêter l'oreille aux partis de l'opposition depuis l'arrivée de la nouvelle direction de leur formation, alors que d'autres jugent les candidats aux trois ministères suffisamment aptes pour confirmer leur nomination. Les députés de Min-ju se sont réunis cet après-midi afin de recueillir les opinions internes. Dans le camp d'en face, le parti du pouvoir du peuple continue de qualifier d'inappropriées ces candidatures. La première force conservatrice se montre cependant ouverte à une négociation destinée à trouver un accord global sur plusieurs enjeux politique. Si le rapport d'audition parlementaire en question n'est pas adopté aujourd'hui, le chef de l'État disposera de 10 jours pour exiger à nouveau sa soumission. Et puis Park Yong-jin a officialisé sa candidature pour l'élection présidentielle de 2022. Il est ainsi devenu le premier prétendant à la succession de Moon Jae-in à la Maison Bleue. Lors d'une conférence de presse donnée hier devant l'Assemblée nationale, le député du Minju, la formation présidentielle, a manifesté son ambition de devenir un jeune président pour réussir le changement de génération politique et construire un pays du bonheur. Dans la foulée, Park a promis de résoudre les enjeux liés à l'immobilier qui suscite la frustration et la colère de la population et d'assurer le droit au logement. Il a également fait part de sa volonté d'introduire un système de conscription équitable appliqué à l'ensemble des citoyens et non seulement aux hommes. Avec l'officialisation de sa candidature, la course à la Cheongwa-dae est désormais lancée au sein du Minju à 10 mois du scrutin qui aura lieu le 9 mars 2022. Le parti au pouvoir envisage d'organiser une primaire fin juin en vue de sélectionner son candidat au début du mois de septembre.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Passons à l'actualité internationale. Dans un contexte où certains constructeurs automobiles américains ont dû suspendre leur production en raison de la pénurie de semi-conducteurs, la secrétaire au commerce des États-Unis a fait savoir que son gouvernement donnerait la priorité à un approvisionnement stable en puces électriques. Dans son interview diffusée hier sur la chaîne CBS, Gina Raimondo a dévoilé un projet d'investissement de 50 milliards de dollars sur 5 ans pour l'industrie locale des semi-conducteurs en lien avec le secteur privé. Rappelons que le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a convoqué le mois dernier une réunion en présence d'acteurs de l'industrie dont le sud-coréen Samsung Electronics et le taïwanais TSMC. L'administration Biden, qui place les semi-conducteurs au cœur de sa stratégie prioritaire pour la sécurité nationale, a ainsi réaffirmé sa volonté de renforcer la production de puces électroniques et de multiplier les réseaux d'approvisionnement. Économie à présent, l'Institut coréen du développement, le KDI, a analysé dans un rapport rendu public aujourd'hui que la Corée du Sud connaîtrait ces jours-ci une certaine reprise économique, et ce malgré la propagation continue du Covid-19. C'est la première fois que l'Institut emploie le mot de reprise pour décrire l'économie nationale depuis l'émergence de la pandémie, alors qu'il avait évoqué le mois dernier une simple sortie de crise. Il n'a toutefois pas manqué de mettre en garde contre la recrudescence des nouveaux cas de contamination et la propagation des variants du coronavirus. Pour cet organisme, les perspectives optimistes s'appuient sur le redressement de l'industrie manufacturière et ses performances dans la vente au détail, mais aussi sur les exportations et les investissements. Quant aux services, la production dans ce secteur a progressé en février et en mars de 1,1 et 1,2% respectivement, d'où une éventuelle sortie du marasme. De son côté, la consommation a repris elle aussi des couleurs en avril. En revanche, le marché de l'emploi peine à montrer des signes de reprise malgré une légère augmentation des embauches due à l'effet de base et à la création d'emplois publics. Et on en vient à la crise sanitaire. Le nombre d'individus ayant reçu une première injection au vaccin contre le Covid-19 s'est élevé hier à 3 674 000, soit 7,2% de la population. Afin d'accélérer la campagne chez les personnes âgées, les autorités sanitaires ont décidé de permettre à partir d'aujourd'hui aux plus de 65 ans de prendre rendez-vous en ligne pour se faire administrer une dose de sérum. La vaccination débutera le 27 mai pour les 60-70 ans et le 7 juin pour les 60-64 ans. Ce lundi, la Corée du Sud a enregistré 463 nouveaux cas de contamination en 24 heures, 436 infections locales et 27 importées. Le chiffre est ainsi retombé en dessous du seuil de 500 au bout de 7 jours. Le pays compte désormais un total de 127 772 contaminations confirmées et 1875 personnes décédées des suites du coronavirus. Et d'autre part, 164 Sud-Coréens résidant en Inde ont regagné leur pays hier matin à bord d'un vol spécial d'Asania Airlines en provenance de New Delhi. Il s'agit d'employés du chantier de construction d'une usine de Samsung Display. Cette troisième opération de rapatriement de ressortissants sud-coréens depuis le pays d'Asie du Sud fait suite à deux vols qui ont chacun ramené la semaine dernière 172 personnes depuis Chennai et 203 autres depuis Bangalore. Naver et l'Université nationale de Séoul ont signé aujourd'hui un accord de partenariat afin de lancer un projet de développement d'une intelligence artificielle linguistique de grande envergure. Ce projet, qui va durer 3 ans, mobilisera une centaine de chercheurs du géant de l'Internet et de la meilleure école de Corée du Sud. Il visera à mettre au point une IA linguistique capable de comprendre la langue coréenne aussi bien parlée qu'écrite, avec l'ambition de dépasser GPT-3, un modèle de traitement du langage naturel développé par OpenAI. Les développeurs de Naver vont jouer le rôle de professeurs afin de faire des étudiants des experts en IA. La première plateforme en ligne du pays va également offrir des stages aux étudiants, tout en multipliant les projets de coopération avec l'université. Les deux partenaires mettront leurs infrastructures et données en commun et les chercheurs partageront les résultats de leurs études en organisant 2 ateliers de travail chaque année. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée à tous.